Pandora Papers, c'est le scandale financier qui secoue la planète depuis le début de la semaine. Un scandale d'évasion fiscale révélé par une enquête gigantesque qui révèle 11 300 milliards de dollars de fraude fiscale. Faut que je fasse attention quand je le lis. Des milliers de milliards de dollars de fraude. Et cette enquête a été réalisée par plusieurs centaines de journalistes qui ont collaboré ensemble à travers les quatre coins du monde. Leur investigation a permis de mettre à jour plus de 29 000 sociétés offshore. Certaines appartiennent à des Français, dont un certain Dominique Strauss-Kahn. L'enquête autour de l'ancien patron du FMI est le sujet d'un nouveau numéro de Cash Investigation diffusé ce soir sur France 2 et présenté par Élise Lucet. Bonjour Linda Bendali.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et réalisatrice de ce Cash Investigation. Vous avez donc participé à cette grande enquête mondiale.
Oui, tout à fait. Donc les Pandora Papers, c'est une enquête sur 117 pays. Je rajoute des chiffres, vous en avez mis beaucoup, je vais en rajouter. 117 pays, 600 journalistes. Et donc depuis à peu près donc l'automne, il y a 12 millions de documents qui sont mis à disposition de ces 600 journalistes pour essayer donc de comprendre comment fonctionne le monde de l'offshore et de l'évasion fiscale aujourd'hui.
Depuis l'automne, donc, vous êtes membre de l'ICIJ, le Consortium International d'Investigation. Vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quoi consiste ce consortium?
En fait, ce consortium met à disposition ce qu'on appelle des leaks, c'est-à-dire des fuites de données massives, et il permet à nous tous de pouvoir regarder, chercher dans ces documents, parce que 12 millions de documents, il faut une logistique et une technique très importante pour pouvoir les fouiller, les investiguer.
Alors, comment vous avez fait pour vous répartir les rôles? Qui est allé sur quoi?
Alors, nous, on a fait la France, hein, tout simplement. On est trois médias. Voilà, on est trois médias en France, Radio France, Le Monde et nous, Cash Investigation. Et donc, on a cherché les Français d'abord, et puis on a trouvé 600 Français. Et à partir de là, on a regardé chaque profil pour voir un petit peu ce qui se racontait dans ces documents.
On ne va pas tout dévoiler parce que j'imagine que les informations vont sortir au compte-gouttes et surtout qu'il faut que les faits soient totalement étayés. Il y a beaucoup de noms français qui apparaissent?
Oui, oui, il y a de tout. On a vu Tony Blair aux États-Unis.
En Angleterre.
Babe Duch en République tchèque. Il y a aussi Denis Sassou-Nguesso. Enfin, il y a plein, il y a 35.
Mais parmi les Français, moi j'ai vu passer le nom de Guy Forget, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a des noms français qui sont apparus, mais qui ne sont pas encore
français.
Sortis? Oui,
j'avais compris, des noms français, pas français.
Mais des noms français qui sont apparus, mais qui ne sont pas encore sortis dans la presse. Je ne vous demande pas de les dévoiler, je veux juste savoir s'il y en a beaucoup.
Alors, ça je ne peux pas le faire, il y en a quelques-uns. Je peux sortir ceux qui sont sortis en tout cas, qui sont donc Aymeric Chopard, qui est ancien député d'extrême droite, Nicolas Perruchot, qui est donc un député... Oula, j'ai oublié
LREM. Son étiquette. Si c'est lui, il y a un député LREM
Sylvain Maillard.
Qui s'en est expliqué.
Ah oui, Nicolas Perruchot, il était centriste, il est devenu LR, c'est pour ça que j'ai un petit trou. Voilà, donc on a quelques noms comme ça, mais quand même beaucoup d'inconnus malgré dans ces 600 noms.
Est-ce que vous avez matière à faire un nouveau numéro de Cash Investigation dans les semaines ou dans les mois qui viennent?
Non. Même pas.
Comment voyez-vous apparaître le nom de DSK? À quel genre de document qu'il concerne avez-vous accès?
Alors, donc DSK apparaît très tôt parce qu'il est repéré parmi les 50 personnalités mondiales qui sortent de... Donc c'est l'ICIJ qui fait cette liste et qui dit il y a 53 personnalités mondiales et DSK apparaît à ce moment-là. Et là, on a accès à ses livres de comptes et à beaucoup, beaucoup de documents sur ses sociétés et notamment au fait qu'il ait créé une société aux Émirats. C'est grâce à l'entrée émiratie, on va dire, qu'on va pouvoir remonter le fil de son business.
Et vous avez fait tout le trajet, parce que vous avez fait la manière dont il place son argent, mais également la manière dont il le gagne. Votre enquête en dit beaucoup. On découvre qu'il fait des conférences qui sont fortement facturées. Vous êtes demandé, évidemment, DSK dans une conférence, combien ça coûte? Vous appelez alors celle qui est en quelque sorte son agent, et comme elle ne vous répond pas directement, vous faites passer pour quelqu'un qui veut l'inviter, vous faites une demande de devis pour une conférence en Algérie.
Et nous souhaitons proposer à Monsieur Strauss-Kahn d'intervenir lors de la session inaugurale.
Oui, d'accord. Mais écoutez, je vais le contacter aujourd'hui pour lui demander, mais je pense qu'il n'y a pas de souci.
On est sur des tarifs de quel ordre à peu près?
Souvent, il voit en fonction de la conférence en question, mais c'est pas de l'ordre de 10 000 euros. Hein. C'est beaucoup plus. Donc, envoyez-moi le plus de détails possible. Est-ce qu'il va me demander de quoi il doit parler? Est-ce qu'il doit assister au cocktail, pas au cocktail? Et je reviens vers...
Une semaine plus tard, l'ancien directeur général du FMI accepte notre invitation. Nous recevons ce contrat. Pour 45 minutes de discours, il faut débourser 70 000 euros hors taxes. Auquel il faut ajouter les billets d'avion en business class sur la compagnie de son choix. Deux nuits en chambre suite, dans un hôtel, là aussi, de son choix.
Qui sont les clients de Dominique Strauss-Kahn pour ses conférences ?
Alors, partout dans le monde, hein, comme on le voit dans le film, il va en Ukraine, il va au Maroc, il va en Corée. En fait, c'est toutes les personnes, dans le milieu économique, avoir Dominique Strauss-Kahn, c'est un truc d'appel pour une conférence, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'ancien directeur général du FMI, il vient, il fait un discours là qui est de 45 minutes, la plupart du temps c'est entre 20 et 30 minutes, et tout le monde est content d'approcher de près M. Strauss-Kahn.
Alors, il n'y a pas que les conférences, il est également conseiller pour des États. Quel genre d'État ?
Alors nous, dans le film, on raconte donc le Congo-Brazzaville, donc voilà, le Togo, mais on a vu évidemment qu'il a travaillé pour d'autres États qu'on n'a pas cités, comme la Tunisie ou la Serbie. Mais c'est vrai que les contrats les plus importants sont avec des personnalités politiques, enfin avec des présidents qui ont quand même qui sont peu fréquentables.
Ouais, c'est pas toujours des modèles de démocratie, ces États-là.
Pas du tout, même.
Pour dire les choses poliment. Tout cet argent est versé à des sociétés, parmi lesquelles Parnasse International, qui, comme son nom ne l'indique pas, est domicilié dans un paradis fiscal marocain. C'est la zone franche de Casablanca. Et vous avez soumis 5 ans de bilan comptable de cette société à un économiste spécialiste de la fiscalité pour savoir combien DSK avait réalisé d'économies d'impôts parce qu'il avait gagné beaucoup d'argent, et sa société, je précise, elle est dans cette zone franche à Casablanca et non pas en France. Il habite près de la gare Montparnasse, d'où le nom Parnasse. Ça faisait combien? La somme, c'était combien? Combien aurait-il dû payer d'impôts?
6 millions sur 5 ans. 6 163 000 exactement euros qu'il aurait eu à payer si sa société était restée en France.
Ouais. Et il ne les a pas payés.
Zéro pour lui.
Alors,
sur ses bénéfices, hein, je précise.
Voilà, pour aider DSK dans son entreprise marocaine, il y a un avocat, il s'appelle Maître Gauvin. Vous êtes allé le rencontrer. Il n'était pas à l'aise, moins qu'on puisse dire, pour répondre à vos questions.
Est-ce que ces documents ne montrent pas que vous étiez en contrat avec la CFC ?
Ça n'est pas la question, ça n'est pas l'objet de l'interview.
Est-ce que vous étiez en contrat avec M. Strauss-Kahn pour avoir la CFC ou
non,
pas
mais
c'est simple.
Non, mais la question est simple, elle n'est simplement pas l'objet de l'interview.
De Maître Gauvin, nous n'obtiendrons rien de plus.
Et on reconnaît les fondamentaux de Cash Investigation. La personne devant vous ne veut pas répondre à la question, juste comme ça, pour savoir quel était l'objet initial de l'interview.
La Casablanca Finance City. Donc, à la base, on parle de ça. Et effectivement, M. Gauvin voulait qu'on ne parle que de ça, mais pas de ce qui pouvait être lié au travail qu'il a fait dans la Casablanca Finance City.
Alors, vous êtes rendu au Maroc pour retrouver le domicile de Dominique Strauss-Kahn. C'est plus compliqué que ça. Vous avez même dû aller ailleurs dans le désert. J'en dis pas plus. Linda Bendali, Cash Investigation, c'est ce soir et c'est dans quelques instants dans Culture Média. 11 300 milliards de dollars de fraude fiscale à l'échelle planétaire, c'est ce que révèlent les Pandora Papers. C'est une enquête qui a été menée pendant des mois par 600 journalistes dans plus d'une centaine de pays, dont Linda Bendali. Son reportage passe ce soir dans Cash Investigation. Vous avez ciblé un Français, c'est Dominique Strauss-Kahn. Vous êtes rendu compte que depuis l'affaire qui porte son nom, il donne des conseils, il donne des conférences, il gagne de l'argent. Cet argent, il est déclaré dans une société qui a été domiciliée au Maroc. Vous êtes rendu au Maroc, vous l'avez retrouvé là-bas sur place. Il a un domicile, il a des bureaux ?
Des bureaux, non. En revanche, une magnifique maison d'architecte près de Marrakech, oui, voilà. Bon, après, on n'a pas réussi à le trouver vraiment, parce qu'il est globe-toaster quand même.
Il a réagi à votre enquête sur Twitter, bien avant même qu'elle soit publiée. Voici ce qu'écrit Dominique Strauss-Kahn. « Quand la méchanceté devient mensonge, vos équipes de professionnels auraient pu vérifier que je suis résident fiscal marocain depuis 2013 et que j'y paye mes impôts à hauteur de 23,8% de mes bénéfices, soit 812 000 euros pour les années 2018, 2019 et 2020. » Fin de citation. Qu'avez-vous à répondre à Dominique Strauss-Kahn ?
Alors la première chose, c'est que c'est étonnant de nous répondre par un tweet avant même d'avoir vu le film, c'est-à-dire qu'il a publié ce tweet avant d'avoir vu le film. La deuxième chose, c'est que nous ne sommes ni méchants ni menteurs, nous sommes factuels, et M. Strauss-Kahn, dans les périodes dont on parle, ça veut dire 2013 et 2018, il n'a payé zéro impôt sur les bénéfices. Dans ce tweet, il mélange beaucoup de chiffres, et il mélange beaucoup de périodes, et c'est pas très rigoureux, mais bon, c'est sa réponse.
Voilà. Il a donné les chiffres de 2018, 2019, 2020, alors que vous donniez les chiffres de 2000, 2013 à 2018, donc en fait peut-être l'année 2017. Dominique Strauss-Kahn ne se contente pas du Maroc, il a également une autre société domiciliée en plein désert, dans un minuscule émirat. Racontez, comment s'appelle-t-il? J'ai peur de mal le prononcer. Et racontez-nous comment vous avez découvert ce nouveau paradis fiscal.
Alors c'est les Pandora Papers qui nous ont mis sur cette piste-là. On découvre que M. Strauss-Kahn a une société qui s'appelle Parnasse Global, donc il y a eu Parnasse International, et maintenant c'est Parnasse Global, qui est donc localisée donc, dans le Ras El Khaimah, le RAC. Alors le RAC, moi, évidemment, je ne connaissais pas avant.
Non plus.
Donc on va à Dubaï et on prend la route du Ras El Khaimah, c'est-à-dire qu'on part de Dubaï et là, on a 1h30 de route dans le désert avec les dromadaires et on arrive dans un bâtiment où la société de Dominique Strauss-Kahn est et autour, il n'y a rien.
Alors je dois le dire, parce que j'ai vu l'image, c'est absolument saisissant. On roule dans les dunes, on a l'impression que c'est un reportage sur le Paris-Dakar. Et tout d'un coup, il y a un immeuble flambant neuf, au milieu de nulle part, au milieu du désert. On entre dans cet immeuble, et c'est pas un taudis, c'est tout absolument splendide. Il y a une hôtesse qui est là, il y a les ascenseurs qui fonctionnent, il y a du mobilier, on a l'impression qu'on est dans art et décoration. Ça a l'air de coûter un bras, et il y a personne, personne ne peut vous parler, personne ne peut rien vous dire. Or, cet endroit existe. On se croirait dans un film de Terry Gilliam.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que là, là-dessus, on se dit, bon bah voilà, on va pas rencontrer M. Strauss-Kahn, mais on va pouvoir avoir quelques informations, et là, c'est porte close, silence total, et c'est l'opacité, quoi. C'est-à-dire qu'en France, si on veut avoir des informations sur une entreprise, ben on va au greffe, on demande, et on a toutes les informations comptables. Là, rien, même pas le nom des actionnaires, même pas le nom des dirigeants.
Un compliment, une critique. Votre enquête, Linda Bendali, est impressionnante, mais il manque quand même quelque chose dans ce numéro de Cash Investigation. C'est la fameuse scène qu'on attend chaque fois qu'Élise Lucet est dans Cash. Elle court derrière la personne qui est mise en cause. C'est un invariant de l'émission. Alors, elle ne pouvait pas le faire avec DSK. Élise Lucet s'est rabattue sur son téléphone.
Merci de laisser un message après le bip sonore.
Oui, bonjour, monsieur Strauss-Kahn, c'est Élise Lucet, France 2, Cash Investigation. Je me permets de vous appeler parce que, comme vous le savez peut-être, on souhaiterait vraiment vous interviewer dans le cadre de l'enquête que nous menons sur vos activités professionnelles depuis quelques années, notamment au Maroc et au RAC. Auriez-vous la gentillesse, s'il vous plaît, de me rappeler le plus rapidement possible au numéro qui s'affiche. Merci infiniment, j'attends votre appel avec impatience. Merci.
Élise Lucet est polie, elle est impatiente, il n'a jamais rappelé.
Non, rien du tout.
C'était impossible de rencontrer Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que vous savez où il est aujourd'hui? Est-ce qu'il est au Maroc? Est-ce qu'il est en France? Est-ce qu'il est ailleurs dans le monde?
Il est beaucoup en France, parce que figurez-vous que plein de personnes à chaque fois nous disaient « Ah, je l'ai vu dans tel restaurant, dans tel endroit, etc. » Mais on n'a jamais réussi à le rencontrer, quoi. Et on a multiplié les demandes, ça fait un mois et quelques, donc depuis mi-août qu'on multiplie les demandes. On est passé par son avocat, par son communicant, par son agente, et jamais impossible, quoi.
Il vous répondait ou il vous répondait même pas?
Aucune réponse. La seule réponse qu'on a eue, c'est de la part de son agente qui nous a envoyé un petit texto qu'on met dans le film et qui dit « Aucune interview ».
Il y a une nouvelle formule de Cash Investigation avec des séquences en preview, c'est-à-dire qu'on peut voir avant que l'émission soit diffusée. Expliquer le principe de la nouvelle architecture de l'émission.
Alors en fait, une semaine avant, bon là c'est quelques jours avant pour des raisons d'embargo liées au Pandora Papers, mais normalement une semaine avant, le film est en preview, c'est-à-dire que le jeudi d'avant la diffusion qu'on appelle en linéaire, donc sur la chaîne, et là les personnes qui le voient peuvent poser des questions. Et ces questions, on y répond. C'est-à-dire qu'on organise un plateau où Élise Lucet est là, les rédacteurs en chef de l'émission, Emmanuel Gagné et Sophie Le Gall aussi. Et on répond aux questions qui sont posées par les internautes. L'idée, c'est d'être vraiment interactif. C'est-à-dire que souvent, à la suite d'une enquête qui fait 90 minutes, on a plein de questions et on essaye de...
Cette séquence a déjà été enregistrée ?
Mardi, oui.
La question la plus étonnante ?
Non, c'était pas très étonnant, en fait, au final. C'était plutôt très intelligent. Comme les questions étaient pertinentes, c'est ça que je veux dire. C'était que vraiment, on sent que les gens sont intéressés par ces histoires-là.
On le serait à moins. Merci beaucoup, Linda Bendali. On rappelle que votre enquête pour Cash Investigation est diffusée ce soir sur France 2, et puis avec le débat et les questions des internautes.